à Washington.
Bonsoir à tous, Eric Manirakiza en direct de Washington. Le monde aujourd'hui du mercredi 11 juillet 2018, édition de 17h30, temps universel. Même heure à Abidjan, Bamako et Dakar, 19h30 à Bujumbura au Burundi. D'abord les titres. Au Nigeria, 26 morts en deux jours dans des attaques criminelles dans le nord attribuées à des voleurs de bétail. Les 3 ans de prison requis hier soir contre 3 figures majeures de la société civile au Niger, Soudan du Sud, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer en fin de semaine sur l'imposition d'un embargo sur les armes. Au Zimbabwe, des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté à Harare pour exiger des élections libres et honnêtes le 30 juillet. Sommet de l'OTAN sous tension à Bruxelles, le locataire de la Maison-Blanche s'en est pris à l'Allemagne, qu'il a accusé d'enrichir la Russie. Le mondial 2018 en Russie, deuxième demi-finale de la compétition. L'Angleterre fait face à la Croatie. La dernière demi-finale britannique, c'était en 1990, et celle de la Croatie en 98. Nicolas Pineau sera avec vous dans 10 minutes, juste après ce journal. Au Nigeria, encore des violences attribuées à des voleurs de bétail dans le nord du pays. En 2 jours, 26 personnes ont été tuées. Les gangs ont tiré sur des habitants, brûlé des maisons et volé des vaches. Dans le seul district de Rabat à Sokoto, plus de 1000 personnes ont perdu leur maison et se sont réfugiées dans la ville voisine de Gandhi. Les communautés agricoles et pastorales de Zamfara vivent depuis des années sous la menace constante des voleurs de bétail et des ravisseurs qui brûlent et pillent des villages et enlèvent des habitants contre rançon. Les villageois ont formé des milices locales pour se protéger. Ils sont néanmoins accusés de nombreuses exécutions extrajudiciaires de bandits présumés, ce qui a entraîné un cycle sans fin de représailles. Au Niger, je vous le disais dans les titres, 3 figures emblématiques de la société civile risquent entre 1 et 3 ans de prison ferme. Le procès a pris fin hier tard dans la soirée. Une 20aine de personnes sont poursuivies pour organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics et privés. Elles sont détenues depuis mars dernier et tentées de braver une manifestation interdite pour demander l'abrogation de la loi de finances 2018. Le juge doit rendre sa décision le mardi 24 juillet. Les détails de Abdelrazak Idrissa à Niamey.
C'est sous haute surveillance policière que s'est déroulé le procès au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Pour l'occasion, les citoyens se sont mobilisés massivement, malgré une forte chaleur, afin d'aller soutenir la 20aine de prévenus, dont les principaux sont Ali Idrissa, Moussa Tiangari et Nuhu Arzika. Les débats ont duré toute la journée et une bonne partie de la nuit de ce mardi 10 juillet 2018. À la fin, le procureur de la République a requis 3 ans d'emprisonnement ferme pour les 3 leaders de la société civile considérés comme les cerveaux de la manifestation, 1 an pour 10 d'autres et la relaxe pour 2 prévenus. Pour leur avocat, c'est un procès à relents politique.
Dans ce procès, il y a un objectif politique assigné au pouvoir judiciaire. C'est au pouvoir judiciaire de porter haut la fierté d'être magistrat. Nous avons donné tous les éléments de droit dans ce dossier. Maintenant, il appartient au juge de décider, non pas seulement de la relaxe, mais de décider aussi de ce que sera l'avenir des libertés fondamentales dans notre pays. C'est un procès pour l'ancrage, l'enracinement de l'état de droit dans notre pays.
La décision du juge est attendue pour le mardi 24 juillet prochain. Abdelrazak Idrissa, Niamey, VOA, Afrique.
À Monaco, la justice a rejeté une demande de l'État du Sénégal de confisquer les fonds monégasques de Karim Ouad. Dakar réclamait notamment la saisie de 2 millions de dollars. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade et opposant au pouvoir a été condamné en 2015 pour enrichissement illicite. Un homme d'affaires mauritanien et opposant au régime de Nouakchott, visé par une plainte à Paris pour des soupçons de blanchiment en France. L'ONG Avocats sans frontières, l'Observatoire mauritanien de lutte contre la corruption et la coalition contre la corruption en Mauritanie suspectent que Mohamed Ould Bouamatou à réaliser des opérations d'investissement mobilier et immobilier réalisées en France, susceptibles de caractériser des opérations de blanchiment et de recel. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer en fin de semaine sur l'imposition d'un embargo sur les armes au Soudan du Sud. Cette proposition américaine divise toutefois les membres du Conseil. Le gouvernement et rebelles ont signé un accord de partage du pouvoir il y a quelques jours, mais qui a été aussitôt dénoncé par les rebelles. N'est-ce pas, Abdulrahman Dia?
Un projet initial de résolution souligne une préoccupation profonde du Conseil de sécurité face à l'échec des dirigeants du Soudan du Sud à mettre un terme aux hostilités et aux violations flagrantes d'un accord de cessez-le-feu et de libre accès humanitaire conclu en 2015. Le projet américain établit un embargo sur les armes jusqu'au 31 mai 2019 à destination du Soudan du Sud. Il autorise les États membres de l'ONU à détruire ou neutraliser toute cargaison d'armes interdite. Au sein du Conseil de sécurité, plusieurs pays, dont la Russie, la Chine et l'Éthiopie, ne veulent pas d'un renforcement des sanctions pour ne pas mettre en péril la médiation menée par l'IGAD et qui a conduit à l'accord de samedi. Aussitôt conclu à Entebbe, les rebelles ont émis des réserves, estimant que le président Salva Kiir garderait une mainmise sur le pouvoir. Ce conflit a fait des milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et une crise humanitaire majeure.
Abdulrahman Dia, en Ouganda, la police a eu recours à des tirs à balles réelles et à du gaz lacrymogène pour disperser une manifestation vers le Parlement à Kampala. Les manifestants protestaient contre une taxe controversée sur l'utilisation des réseaux sociaux et doivent payer 200 shillings pour accéder à WhatsApp, Facebook et Twitter, ainsi que des sites de rencontres comme Tinder ou Grindr. Au Zimbabwe, le principal parti d'opposition, le MDC, Mouvement pour le Changement Démocratique, a marché devant le siège de la commission électorale. Il exige des réformes et pour un vote crédible. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Des milliers de partisans du MDC ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Pas de réforme, pas d'élection » ou encore « Non à la manipulation du vote ». Les dirigeants du MDC ont remis une pétition à la commission électorale. D'après Menger Costa, député MDC, je cite, « La ZANU-PF va essayer de tricher lors de l'élection ». Le MDC dit craindre une tentative de le mettre dans une situation désavantageuse face à Emmerson Mnangagwa, candidat de la ZANU-PF. Il insiste sur un éventuel accord entre le parti au pouvoir et la commission électorale sur la façon de concevoir, d'imprimer et de stocker les bulletins de vote. En juin, Nelson Chamisa, candidat du MDC, a demandé à la commission électorale de permettre un audit du fichier électoral et d'assurer une couverture équitable de la campagne électorale par les médias publics. Il a rejeté les bulletins de vote en cours d'impression. Pour sa part, le président de la commission électorale soutient que seule sa structure est habilitée à traiter de la question. Le Zimbabwe se choisira un nouveau président et des députés le 30 juillet après la démission forcée de Robert Mugabe l'année dernière.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Sommet de l'OTAN à Bruxelles, Donald Trump, le président américain, a lancé au premier jour du sommet une attaque frontale contre l'Allemagne. D'une part, le chef de la Maison Blanche accuse l'Allemagne de ne pas contribuer suffisamment aux efforts militaires de l'Alliance et de l'autre, il accuse le pays de Merkel d'enrichir la Russie. N'est-ce pas, Bagassikoura?
Très remonté, le président américain est resté sourd aux tentatives d'explication du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qu'il a rencontré avant l'ouverture officielle de la réunion à Bruxelles. L'Allemagne est complètement contrôlée par la Russie. Elle est prisonnière de la Russie, a-t-il martelé dans une diatribe contre la première puissance économique de l'Union européenne. Elle paye des milliards de dollars à la Russie pour ses approvisionnements en énergie et nous devons payer pour la protéger contre la Russie. Comment expliquer cela? Ce n'est pas juste, a-t-il asséné. L'Allemagne prend cette décision de manière indépendante, a rétorqué la chancelière allemande Angela Merkel. Donald Trump et Angela Merkel ont eu l'occasion de s'expliquer au cours d'un tête-à-tête après la première séance de travail. Le président américain a alors changé de ton, assurant avoir de très bonnes relations avec la chancelière.
Afghanistan, une nouvelle attaque a fait au moins 11 morts à Jalalabad, dans l'est du pays. L'attaque a visé le bâtiment de l'éducation et n'a pas été revendiquée. L'opération a duré plus de 4 heures. Les forces de sécurité dépêchées sur place progressaient lentement dans le bâtiment où s'étaient retranchés au moins 2 assaillants et un jeune Afghan de 23 ans, récemment expulsé d'Allemagne au sein d'un groupe de 69 compatriotes, s'est pendu dans son hébergement provisoire à Kaboul. Une centaine de dignitaires musulmans ont achevé aujourd'hui une conférence de 2 jours en Arabie Saoudite par des appels pressants à la paix en Afghanistan. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Maintenant, la Minute Éco.
L'établissement financier lance le cash pick-up au Sénégal. Le cash pick-up est un service bancaire qui permet l'envoi instantané d'argent à l'international grâce à son téléphone ou à son ordinateur. World Remit, Global Money Transfer et la Banque Régionale de Marché ont développé ce service au Sénégal. Selon Financial Afrique, les expatriés peuvent ainsi envoyer des fonds depuis une cinquantaine de pays par message instantané à travers l'application mobile World Remit. Les bénéficiaires, eux, peuvent retirer cet argent dans 2 agences BRM à Dakar et 45 points de collecte à travers les zones rurales du Sénégal. BRM et GMT disposent d'un réseau étendu d'agences bancaires au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Après des années de vaches maigres, les chiffres du tourisme sont en hausse en Tunisie. Plus de 3 millions d'étrangers sont arrivés dans le pays au premier trimestre 2018, en hausse de 26% par rapport à l'année précédente. C'est une reprise remarquée après plusieurs années difficiles suite à la chute de Ben Ali en 2011 et aux attentats en 2015. La Tunisie espère accueillir 8 millions de touristes en 2018. Les exportations de pétrole ont repris en Libye après plus de 2 semaines d'arrêt dû à un bras de fer entre les autorités politiques rivales sur la gestion des stratégiques revenus de l'or noir. Ce blocage a provoqué une chute de la production et des pertes estimées à près d'1 milliard de dollars.
Votre page du Mondial 2018 en Russie, Nicolas Pinon avec moi au studio. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir et bonsoir à tous.
Voilà, la deuxième demi-finale dans moins de 20 minutes.
Le coup d'envoi à 18h temps universel à Moscou de Croatie-Angleterre. Le latéral droit de l'Atlético Madrid, Simeon Šalićko, sorti sur blessure lors du quart de finale contre la Russie, est finalement titulaire, tout comme le gardien Danijel Subasic. Subasic qui devra faire face aux assauts de l'attaque anglaise emmenée par le capitaine et meilleur buteur du tournoi Harry Kane, ainsi que le rapide ailier de Manchester City Raheem Sterling. L'Angleterre, on le rappelle, n'a pas remporté de demi-finale depuis sa victoire en Coupe du Monde, c'était en 1966, tandis que la Croatie a perdu la seule demi-finale qu'elle a disputée, c'était en 1998 contre la France.
Le verdict après 90 minutes de jeu, Nicolas, et depuis hier, on connaît le nom du premier finaliste de cette Coupe du Monde.
Et oui, c'est la France qui a fait le dos rond hier face à une équipe de Belgique dynamique. Les Diables Rouges n'ont pas su concrétiser leur bonne entame de match face à des Bleus expérimentés. Et c'est sur coup de pied arrêté que Samuel Umtiti de la tête en deuxième période a permis à l'équipe de France de se qualifier pour la troisième finale de son histoire. On va écouter la joie de Didier Deschamps en conférence de presse après le match.
Le mérite en revient aux joueurs parce que ce sont eux les acteurs et ils font tout. Et ensemble, ça fait 49 jours que nous sommes ensemble depuis le premier jour de la préparation. Qui l'eût cru, à part vous, bien sûr, qu'on allait être en finale de Coupe du Monde, mais autrement, voilà, c'est, il faut savourer, il faut apprécier. On va passer 48 heures, déjà ce soir et demain, partager ce bonheur-là avec nos familles, puisqu'elles sont là.
Voilà Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, qui va tenter d'effacer son échec à l'Euro 2016 en finale. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin.
La France qui sort victorieuse de la finale avant la lettre, l'opposant au voisin belge, c'est le dernier obstacle qui conduit vers l'objectif initial non avoué. Ramener cette Coupe du Monde de Russie et effacer la déception finale de l'Euro 2016. Dans un match serré et tendu où l'enjeu a tué le jeu, l'équipe de France, disciplinée tactiquement en défense, lucide et réaliste en attaque, a trouvé la faille sur un coup de pied de coin bien repris par Umtiti à la 51e minute. Dès lors, le service minimum rempli, les Français qui se retrouvaient dans la configuration tactique qui leur réussit le plus ont su contenir une équipe belge qui n'a pas pu profiter de son temps fort dans la première demi-heure de jeu. Les Belges paient cher le non-respect d'une logique élémentaire. C'est en attaquant qu'une équipe faite pour marquer doit espérer gagner un match capital. Pour l'équipe de France, cette deuxième finale d'affilée, après celle de l'Euro 2016, confirme le statut actuel de la sélection comme puissance incontestable du football mondial, mais l'heure n'est pas encore à l'autosatisfaction. Il reste un essai à transformer. À demain.
Voilà, c'était le coup de sifflet de Jules Valentin. Oui, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza de retour avec vous à présent. Les dossiers du jour. La Côte d'Ivoire a depuis hier un nouveau gouvernement avec 41 ministres et secrétaires d'État contre 34 pour le précédent. La nouvelle équipe est largement dominée par le RDR au pouvoir et des personnalités favorables au projet du président Alassane Ouattara d'avoir un parti unifié, faute d'un accord avec son allié, le PDCI, en vue des élections de 2020. Idriss Fall a recueilli la réaction de Christophe Kwame, président de CIVIS, une association de la société civile à Abidjan.
C'est un gouvernement très politique pour régler le problème du parti unifié. Et de l'autre côté, le Premier ministre a ajouté un volet social avec l'introduction de la société civile. Pour ce qui concerne le volet politique, le président Ouattara, à travers son Premier ministre, veut se donner les chances d'aller jusqu'au bout pour son projet de parti unifié.
Mais ça n'a pas consacré une rupture totale avec le PDCI.
Nous avons entendu une réaction du président Bédié qui dit que les ministres PDCI qui sont restés dans le gouvernement n'ont pas eu l'aval du parti en tant que PDCI. Donc, à l'évidence, ces ministres qui se sont alignés sur le courant, sur les traces de Feu Boigny lancé il y a trois jours par M. Adjoumani, ont clarifié leur situation en allant au niveau du RHDP.
En arrière-fond, les élections de 2020 alors?
Absolument. Pour se donner les chances de 2020, le gouvernement avec le Premier ministre ont choisi premièrement d'écrire tout en grand que c'est un gouvernement RHDP plus la société civile. Cela a donné un remue-ménage. Qu'est-ce que la société civile va faire dans un gouvernement politique? Mais en même temps, tous les membres de la société civile ivoirienne sont sur le terrain, sont proches des populations, le porte-voix des sans-voix. Du côté purement politique, vous avez vu que pour augmenter la capacité de mobilisation sur le terrain, pour se donner les chances de 2020, plusieurs ministères ont été découpés en deux ou en trois pour certains. Donc tous ces éléments-là nous confortent que 2020 est déjà aujourd'hui au gouvernement.
Même si Alassane Ouattara n'a rien dit de ses intentions, on a comme l'impression qu'il se prépare lui-même à se jeter dans la course.
Il a annoncé lors d'une interview il y a à peine un mois que la deuxième constitution donnait les moyens d'être candidat. Les membres du parti RDR, le parti de M. Alassane Ouattara, ont annoncé il y a trois jours seulement qu'ils proposent que le président Ouattara, qui est jusque-là président d'honneur du RDR, soit le président du parti unifié. Donc, le parti unifié, qui peut s'appeler RHDP ou non, avec tous ces micro-partis qui ont accepté d'aller dans ce gouvernement, va se donner un congrès des statuts très bientôt, avec proposition du parti majoritaire RDR, M. Alassane Ouattara, comme président de ce parti. Quelque chose se prépare pour 2020. Donc que le président Ouattara ait dit ou non qu'il sera candidat, il y a une suspicion légitime d'un observateur que nous sommes.
Christophe Kwame, président de CIVIS, une association de la société civile à Abidjan.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur l'accord historique entre l'Éthiopie et l'Érythrée pour mettre un terme à deux décennies d'état de guerre qui avaient déchiré les deux pays frères. Quelles sont les réactions à cet accord de paix? Le processus ira-t-il jusqu'au bout? Que représentent pour l'Éthiopie les réformes que multiplie le Premier ministre Abiy Ahmed? A-t-il le soutien de toutes les couches de la population éthiopienne? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Ne manquez pas Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h30.
RDC, l'élection présidentielle aura bel et bien lieu le 23 décembre 2018 Affirmation de Bruno Tshibala, Premier ministre du pays. C'est dans une interview accordée à John Lindon, qui était notre envoyé spécial à Kinshasa. Le chef du gouvernement congolais évoque aussi la candidature du président Joseph Kabila, un sujet qui, à son avis, n'a pas lieu d'être. L'actuel président va respecter la Constitution et donc ne se représentera pas. Suivez.
Au moment où nous parlons, les partis politiques et les regroupements sont en train de se bousculer à la porte de bureaux d'enregistrement des candidatures pour déposer justement leur candidature. Et donc, tous les saints Thomas sont aujourd'hui édifiés. Le Premier ministre Tshibala a tenu parole. Les élections vont se dérouler dans notre pays suivant le calendrier publié par la CENI. Et aujourd'hui, on enregistre les candidatures au niveau de législative provinciale. Demain, ça sera les législatives nationales et la présidentielle. Et donc, au 23 décembre 2018, ça sera le peuple congolais qui va parler.
Jusqu'ici, le président Kabila en personne n'a pas encore dit si oui ou non il ne sera pas candidat.
Deux choses. La première, il ne s'agit pas de penser que le président Kabila va se représenter ou pas. Le président Kabila a toujours dit qu'il va respecter la Constitution. Et vous savez que nous sommes maintenant, comme je venais de le dire, dans les opérations d'enregistrement, c'est-à-dire que le président Kabila a tenu parole.
Bruno Tshibala, Premier ministre de la RDC, l'extrait de cette interview sera également disponible dès demain sur notre site internet voafrique.com.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Coup de projecteur sur la patrie dit à la faveur du sauvetage des jeunes footballeurs d'une grotte souterraine en Thaïlande. Au moins 3 des 12 garçons ainsi que leur entraîneur sont des apatrides, c'est-à-dire des gens ne sont reconnus comme citoyens d'aucun pays au monde. Au moins de 10 millions de personnes se trouvent dans cette situation dans le monde. En 2015, les pays ouest-africains ont lancé l'initiative visant à aider les apatrides. Pour en parler, Timothée Donangmaï a joint Romain Desclous du bureau ouest-africain du HCR à Dakar.
Les apatrides, déjà, sont des personnes qui sont comme vous et moi, mais qu'aucun État ne reconnaît comme étant leur citoyen. Ce qui veut dire qu'au quotidien, ils se sentent invisibles. Par exemple, ils ne peuvent pas aller faire une consultation dans un hôpital ou un centre de santé, quand souvent on va leur demander une pièce d'identité ou un acte de naissance. Les enfants ne vont pas pouvoir aller à l'école, parce que là encore, on va leur demander à l'inscription à l'école une pièce d'identité, un acte de naissance. Ils ne vont pas pouvoir aller à l'université pour pouvoir suivre une éducation. Ils ne vont pas pouvoir ouvrir un compte en banque, par exemple. Et de fait, cet ensemble d'impossibilités pour eux de vivre et de jouir pleinement de la qualité de citoyen les empêche d'avoir un avenir. Ne peuvent souvent, cela les rend même plus vulnérables à toutes les possibles, violations. Par exemple, s'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas avoir un contrat de travail, ne peuvent pas ouvrir un compte en banque, ils vont souvent être ceux les plus à même à être utilisés pour le travail clandestin. Souvent, certains vont aussi chercher à avoir une opportunité économique ailleurs et à ce moment-là, entrer dans des situations de mouvements mixtes vers l'Europe ou d'autres pays voisins. Donc, leur situation est assez délicate et nécessite de fait une protection, ce qui est notre travail, notre mandat au HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et c'est aussi ce que nous faisons pour aider les pays de la région d'Afrique de l'Ouest à les accompagner pour qu'ils puissent améliorer la protection législative pour s'assurer qu'il n'y ait plus de personnes apatrides en 2024.
Alors ces pays d'Afrique de l'Ouest ont adopté en 2015 la déclaration d'Abidjan visant à éradiquer l'apatridie. Quel bilan peut-on en faire ?
Déjà, enfin, l'ensemble des pays sont engagés. Ça n'est pas mince. L'ensemble des pays de la région ont également désigné ce qu'on appelle des points focaux au sein des gouvernements pour être des référents au sein de ces gouvernements sur la question de la Patrie. C'est aussi l'Afrique de l'Ouest, c'est la première région au monde à s'être dotée l'an dernier d'un plan d'action contraignant pour aboutir à l'éradication de la Patrie d'ici 2024. Donc ça, c'est certes, c'est une déclaration, c'est un engagement fort et qui s'accompagne de mesures précises. Par exemple, au Burkina Faso, des actes de naissance ont pu être distribués cette année, un peu plus tôt dans l'année, à des personnes qui n'en avaient pas. En Côte d'Ivoire, plus de 8000 personnes sont vues remettre un acte civil prouvant leur citoyenneté à la suite d'une procédure spéciale. Il y a par exemple la Sierra Leone qui a modifié sa législation l'an dernier pour assurer une égalité entre hommes et femmes dans la transmission de la nationalité. Ce qui veut dire que les femmes ne sont plus discriminées dans la possibilité de donner à leurs enfants la nationalité.
C'était Romain Declous du bureau ouest-africain du HCR à Dakar.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le sommet de l'OTAN s'ouvre aujourd'hui en Belgique. Le président américain a dénoncé le comportement de certains alliés en matière de financement de l'Alliance. Le président Donald Trump souhaite un partage plus équitable des dépenses militaires. Raissa Girondin a joint à Paris Corentin Brousselin, directeur du Centre des études de sécurité à l'IFRI.
La question de l'effort de défense en Europe, c'est une question sérieuse et importante, et les critiques américaines à l'égard des dépenses d'un certain nombre de pays européens sont justifiées. D'ailleurs, elles ne datent pas de Donald Trump. S'il y a une continuité là-dessus du côté américain, c'est aussi parce que il y a une continuité du côté européen, une certaine quantité d'États, on va dire, à sous-investir dans leur défense. Maintenant, il faut aussi se rendre compte que la situation a bien changé au cours des dernières années et finalement la perception de la part des Européens qu'il faut accroître l'effort de défense, elle existe déjà. L'effort de défense, depuis la fin de la guerre froide, il baissait, aujourd'hui il augmente. Ça ne date pas de Trump, ça date de la Crimée, ça date de la réaffirmation russe, ça date également du terrorisme. Et donc, il y a une prise de conscience du côté des alliés européens de l'OTAN qu'il fallait investir davantage dans leur défense.
Donc, le mauvais élève dans cet effort d'investissement?
Alors, le mauvais élève que blâme Trump, c'est évidemment l'Allemagne, mais il faut être conscient d'une chose, c'est que bon, l'Allemagne a des plans d'accroissement de son budget de la défense, qu'il soit perçu comme suffisant ou non, c'est autre chose, mais on ne passe pas d'une situation où on dépense 1,3% du PIB à une situation où on dépense 2% en 2 ans. C'est impossible. Ce serait de l'argent jeté par les fenêtres qu'on ne saurait pas utiliser.
Il aurait peut-être par là dénoncé aussi une relation très particulière entre les Allemands et les Russes.
Il y a des connexions qui existent entre l'économie allemande et l'économie russe, mais l'Allemagne n'a pas cherché à freiner l'adaptation de la posture de l'Alliance face à la Russie du tout. Puis depuis 2014, à mon sens, la critique n'est pas justifiée. Il y aurait d'autres pays qui seraient peut-être plus exposés face à ce genre de critique.
Alors aujourd'hui, à quoi sert l'OTAN ?
La question de la pertinence de l'OTAN se posait particulièrement après la guerre froide, parce qu'on ne voyait pas quelle pouvait être la menace majeure qui pourrait mettre en danger l'Europe collectivement. On voit aujourd'hui que celle-ci n'a pas totalement disparu et qu'elle peut réémerger, y compris rapidement. Donc il y a déjà une nécessité de défense collective, même du point de vue strictement américain. Alors, les 700 milliards de dollars que les États-Unis dépensent pour leur défense ne sont pas 700 milliards qui vont à l'OTAN. Il y a un certain nombre de déploiements, de capacités qui vont en Europe et dont l'Europe est reconnaissante. Mais c'est aussi un instrument d'influence assez exceptionnel. C'est-à-dire la capacité américaine à pouvoir s'appuyer sur des partenaires qui peuvent les aider dans les opérations, peut-être pas en Europe, mais peut-être au Moyen-Orient, par exemple, ou en Afrique, où les États-Unis ont pu être heureux, notamment pendant la guerre en Irak ou en Afghanistan. Les États-Unis étaient heureux de pouvoir compter sur des alliés, parce que ça a une valeur politique, ça a une valeur militaire, de ne pas avoir à s'engager seul sur des théâtres extérieurs.
C'était Corentin Brousselin, directeur du Centre des études de sécurité à l'IFRI, joint à Paris. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de votre écoute. À la mise en onde de Michel Joseph, à la console Dan Crafton, Eric Manilakiza à la présentation. Voulez-vous réaliser votre rêve? Eh bien, il vous faut éviter la peur de l'échec. C'est la seule chose qui rend un rêve impossible. On reste connecter sur Facebook et sur votre site internet voafrique.com. L'actualité continue sur VOAfrique. VOAfrique.